Et merci d'avoir choisi Europe 1, il est midi.
On a devant nous une crise, une épidémie qui arrive et on va devoir l'affronter au mieux.
Une épidémie que l'on va devoir affronter au mieux avec la vie qui continue. Emmanuel Macron au-devant du coronavirus. Le chef de l'État est allé lui-même poser toutes les questions au groupe de médecins de l'hôpital Salpêtrière à Paris.
Oui, là où est décédé le patient de 60 ans originaire de l'Oise. Où en est-on d'ailleurs de ce cas? A-t-on plus d'informations, sachant qu'il n'avait pas voyagé dans les zones à risque? Le détail à suivre.
À ne pas manquer dans ce journal, Pierre, le reportage sidérant de Roman Hockey, notre reporter de retour d'Italie à l'aéroport de Milan. Comme sur tout son trajet en avion, aucune mesure de précaution.
Pas plus qu'à Paris, comme le constate un des passagers du vol qu'a pris Roman.
Il n'y a rien, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien. C'est même incompréhensible.
Alors, est-ce vraiment le cas? Nous posons la question en direct dans ce journal au médecin-chef d'Aéroport de Paris, le docteur Patrick Thomas. Dans ce journal également, un incendie à Strasbourg cette nuit. 5 morts, 7 blessés. En cause, probablement un problème électrique.
Le scandale du charnier de Paris-Descartes et la découverte de dizaines de cadavres entassés laissés à l'abandon. Les familles des défunts réclame la vérité.
Pourquoi a-t-on des tarifs SNCF aussi fluctuants lorsqu'on achète un billet de train? Élément de réponse à suivre.
Et puis le foot, c'est Lyon qui a eu le dernier mot hier face à la Juve. 1-0 dans un stade plein de supporters italiens, mais aussi lyonnais.
Quelle victoire! Plus beau match de la saison, ça c'est sûr.
La météo, un ciel toujours agité, Céline Dacosta.
Oui, encore de la neige près des frontières du Nord, sur les reliefs également. Pour les autres, des giboulées, des pluies. Et puis, c'est surtout la moitié est ce qui est concerné. Un vent soutenu sur tout le territoire et toujours des 10 départements en orange dans le Nord et le Nord-Est.
Merci Céline, on vous retrouve pour une météo complète à la fin du journal sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Devant l'épidémie de coronavirus qui progresse, Emmanuel Macron s'est donc rendu ce matin, Pierre, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, là où le premier Français est mort sur notre territoire.
Ouais, la France compte donc 2 morts depuis le début de l'épidémie, 18 cas recensés. Claudia Bertram, le chef de l'État, est allé poser toutes les questions à l'équipe médicale.
Oui, le président a eu un long échange ce matin avec les équipes de la Pitié-Salpêtrière. Il a d'abord tenu à apporter son soutien au personnel hospitalier et à saluer leur mobilité.
En commençant surtout par vous remercier et vous dire combien, non seulement je compte sur vous, et vous pouvez compter sur moi, mais combien aussi je crois que tous nos concitoyens comptent sur vous et savent reconnaître votre professionnalisme et la qualité des soins.
Accompagné du ministre de la Santé, Olivier Véran, le président a demandé aux médecins comment eux voient les choses. Il leur a posé beaucoup de questions en termes d'organisation. Le chef de l'État qui a dit aussi l'importance d'une information transparente. Écoutez ce médecin qui lui a fait part de son sentiment sur la suite des événements.
Je pense qu'il va y avoir une situation un peu à l'italienne. Le patient qui est décédé hier ici à la Pitié, plus le cas qui est hospitalisé à Amiens, c'est deux patients qui n'ont pas de lien avec la Chine. Donc ça veut dire que le virus circule déjà parmi nous.
On a devant nous une crise, une épidémie qui arrive. Ça suppose de s'organiser à chaque étape sans doute différemment. Et on va devoir l'affronter au mieux.
On a une épidémie qui arrive, déclare donc le chef de l'État. Cet échange a aussi été l'occasion pour le personnel soignant de confronter le président à la crise de l'hôpital public. La crise du coronavirus arrive dans un contexte où nous manquons de personnel, lui rappelle un médecin. Emmanuel Macron, qui a dit entendre leur demande de moyens, il a quitté l'hôpital il y a une quinzaine de minutes en précisant qu'il reviendrait dans les prochains jours auprès des équipes pour les encourager, les soutenir et vérifier que tout fonctionne bien.
Merci Claudia Bertram. Et ce patient originaire de l'Oise et qui est donc décédé à la Pitié, eh bien, n'avait pas, on vous l'a dit, pas voyagé dans les zones à risque.
D'où un gros point d'interrogation sur la façon dont il a été contaminé. Jean-Sébastien Soldani, est-ce qu'on en sait plus ?
Eh bien, ce qu'il y a de nouveau, c'est que ce patient était déjà atteint d'une autre pathologie, en plus du coronavirus. Et puis, il y a une évidence, le personnel de l'hôpital de Creil n'a pas du tout envisagé l'hypothèse d'une infection au coronavirus, dans les premiers jours en tout cas, parce que lorsque ce patient est pris en charge, comme il ne revient ni de Chine ni d'Italie, ça ne vient pas à l'esprit des médecins. Il n'y a pas de lumière rouge qui s'allume. Cet enseignant de 60 ans suit alors un parcours ordinaire pour un homme qui est dans un état de santé plutôt mauvais, probablement en relation avec sa première pathologie, service de réanimation d'abord, et puis des tests sont passés pendant plusieurs jours jusqu'à ce que le personnel médical envisage l'hypothèse jusque-là jugée improbable, le coronavirus. Transféré à la Pitié-Salpêtrière, les tests se révèlent positifs, mais trop tard avant son décès d'une embolie pulmonaire dans la nuit de mardi à mercredi. D'après plusieurs sources à l'hôpital de Creil, rien n'a été sous-estimé. Le problème, c'est que plusieurs soignants ont été en contact avec ce porteur porteurs du virus. Ils sont en train d'être identifiés et certains sont déjà en quarantaine à leur domicile.
Merci Jean-Sébastien Soldaini. L'épidémie continue à se propager dans le monde. Deux nouveaux cas en Angleterre, des personnes infectées en Italie, mais aussi à Tenerife. Souvenez-vous de cet hôtel confiné. Trois nouveaux morts en Iran, ce qui porte officiellement le nombre à 22. Au Japon, on a décidé de fermer temporairement les écoles publiques. En Italie, on est à 12 morts, 400 cas identifiés. Emmanuel Macron se rend d'ailleurs à Naples pour un sommet franco-italien aujourd'hui.
Vous allez maintenant entendre un reportage édifiant. Notre envoyé spécial en Italie, justement, Romane Hocquet, a pris l'avion pour revenir en France. Elle a passé deux jours à Codogno, ville en quarantaine, le foyer de l'épidémie de coronavirus là-bas. Et vous allez l'entendre, les contrôles à l'aéroport et dans l'avion sont légers, voire inexistants.
16h, arrivée à l'aéroport de Milan. Dans le hall, je cherche, mais aucun panneau, aucune affiche sur le coronavirus.
Bonjour. Bonjour.
Mettez-moi le téléphone. Okay.
Donc là, j'ai passé les contrôles de sécurité et même avec mon masque, on ne m'a pas posé de questions. En salle d'embarquement, je patiente à côté de Tullio. Il part pour le Brésil.
Vous imaginez ? Je voyage à l'autre bout de la planète. Peut-être que je propage le virus. Ils doivent contrôler ça dans les aéroports.
On annonce notre équipage que
vous souhaitez bienvenue à bord de cet Airbus A319 Air France.
Dans l'avion, aucune consigne. D'ailleurs, le personnel ne porte pas de masque. 19h30, atterrissage à Paris. Dans les couloirs, des brochures sur la Chine, rien sur l'Italie et personne pour vérifier notre température.
Il n'y a rien, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien à l'arrivée et c'est même incompréhensible.
Je vais quand même aller vérifier au centre médical. Bonsoir, j'arrive de la ville de Codogno en Italie. Je voulais savoir si j'avais des précautions particulières à prendre. Ou...
On n'en sait rien, ça change tout le temps, me répond l'infirmière. La quarantaine, c'est vous qui voyez.
Voilà donc pour ce reportage de Romane Hocquet dans l'avion d'Air France et son arrivée à Roissy. On lui dit, c'est vous qui voyez. Bonjour docteur Patrick Thomas.
Oui, bonjour,
enchanté. Merci d'être avec nous en direct dans Europe Midi. Vous êtes le médecin-chef du service médical d'urgence de l'aéroport de Roissy, aéroport de Paris. Vous avez entendu dans le reportage ce passager qui dit « on arrive et il n'y a rien ». C'est vrai ça, il n'y a rien ?
Bonjour, je pense qu'il faut préciser, moi, qu'en tant que médecin, qu'il y ait de l'inquiétude autour du virus, c'est tout à fait normal. Mon travail, moi, au quotidien, c'est de rassurer. Il faut éviter, surtout qu'on ait une épidémie de panique. Moi, au quotidien, je fais de la réassurance auprès du personnel des différentes entreprises de la plateforme aéroportuaire. On a plus d'une soixantaine de personnes qui passent tous les jours au service médical pour avoir des informations, des conseils, des informations.
Comme Romane,
en plus,
hein. Ouais.
Tout à fait. En plus de notre activité au quotidien. De plus, notre service est totalement placardé d'affiches.
Oui, mais vous avez entendu la réponse de l'infirmière quand Romane lui a demandé ce qu'elle devait faire. Elle arrive de Codogno.
J'entends bien, mais je vous dis bien que notre service est placardé d'affiches émanant du ministère de la Santé, donnant les bonnes consignes, ce qu'il faut faire, notamment de se laver les mains, de porter un masque chirurgical, d'éviter le contact avec les personnes fragiles, toutes les mesures qui sont placardées partout dans l'aéroport.
Ça veut dire que le ministère de la Santé, docteur, pour l'instant, ne vous impose aucune règle, si je comprends bien.
Alors, je n'ai pas dit que MISA ne nous imposait pas de règles. C'est le ministère de la Santé, pardon, qui fixe les règles, hein, c'est ouais. Normal, et qui nous dit ce qu'il y a de le faire. Et pour l'instant, ce qui a été, la mesure la plus efficace, qui a été mise en place, c'est l'information. Et je redis bien encore, l'information. On a une forte expérience, nous, de ces moments-là, hein, d'épidémie. Hein, je vous rappellerai, dans notre histoire, l'épidémie du SRAS, l'épidémie d'Ebola, l'épidémie du MERS-CoV, hein, etc., je vous en passe. Le service médical a toujours fait face à ce genre de situation.
Mais le ministère de la Santé vous dit ne faites pas de contrôle parce que ça ferait peur aux gens, ça créerait un mouvement de panique ?
Non, le ministère de la Santé ne nous dit pas de ne pas faire de contrôle. Le ministère de la Santé nous donne des directives, des bonnes pratiques à avoir.
Par exemple.
Il y a les vols en fait qui arrivent, les vols directs qui arrivent de Chine et maintenant de Séoul, donc de Corée et de Singapour, qui bénéficient d'un traitement particulier avec la Croix-Rouge et la réserve sanitaire. Mon équipe n'étant pas assez étoffée pour faire face évidemment à l'ampleur du nombre d'arrivées. Hein, on a quand même au début de la crise, on avait 5000 passagers à peu près par jour qui arrivaient de Chine. Hein, depuis, Air France a évidemment fermé la plupart de ses vols.
Mais qu'est-ce qu'on attend pour renforcer les équipes, docteur ? Pardon.
Alors, je ne suis pas le bon interlocuteur. Pour renforcer les équipes, voilà, c'est le ministère de la Santé qui gère ce problème. Ce n'est pas Aéroports de Paris.
Donc, vous nous dites, ça, c'est les vols qui arrivent de Chine, de Corée, etc. L'Italie, pour le coup ?
Alors, en ce qui concerne l'Italie, le dispositif qui a été mis en place, c'est le même que pour tous les gens qui arrivent des zones dites zones à risque, par vol, par exemple, à direct, hein, qui ont fait des escales. Le dispositif mis en place par le ministère de la Santé consiste à mettre des dispositifs informatifs avec des totems dans l'aéroport, des distributions de flyers, qui disent exactement ce que je viens de vous y dire tout à l'heure. Que devez-vous faire pendant les 14 prochains jours ? Lavez-vous les mains, portez un masque, etc.
Docteur Thomas,
etc. Oui.
Je vais vous poser la question autrement. Est-ce que c'est impossible de contrôler toutes les personnes, toutes les arrivées, tous les passagers qui viennent des pays à risque ?
Moi, je ne vous dis pas que c'est possible ou impossible.
Mais j'aimerais savoir, pourtant.
Je ne suis pas le bon interlocuteur. Je vous dis bien que c'est au niveau ministériel.
Vous êtes sur place, vous voyez comment ça se passe.
Je suis sur place parce que je suis le médecin responsable du service médical avec mon équipe, hein, qui est l'équipe du groupe ADP. Mais pour pouvoir faire un contrôle plus important, ou s'il y avait une décision à faire, c'est au niveau ministériel qu'il faut le décider, pas à mon niveau.
Moi, je ne suis pas à votre place. Mais j'imagine bien que si on commence à dire maintenant tous les passagers vont être contrôlés, j'imagine des hôpitaux de campagne dans les terminaux des aéroports. Et ça, c'est autre chose.
J'entends parfaitement ce que vous dites. Hein. Bon, effectivement, il y a des avions, hein, avec des gens qui arrivent par avion. Mais dans ces cas-là, et là, le problème n'est plus de mon ressort, il y a aussi du trafic routier, il y a du trafic ferroviaire. Hein, là. Et quelle est la mesure la plus efficace ? Et j'en reviens toujours à la même chose, c'est l'information. Et c'est ce qui est mis en place. D'autant plus qu'il y a des panneaux dans tout l'aéroport qui disent aux gens qui arrivent de ces fameuses zones à risque, vous pouvez passer dans les 3 pharmacies de l'aéroport, je parle pour Roissy, il y en a une également à Orly, ou au service médical pour venir récupérer...
À chacun de prendre ses
Vous en appelez au bon sens de chacun. Merci beaucoup, docteur Thomas, médecin chef du service médical d'urgence de l'aéroport de Roissy, aéroport de Paris. Merci d'avoir été avec nous en direct dans Europe Midi.
Il est midi 11, la suite de votre journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin. Et devant l'ampleur, Pierre, de ce coronavirus et de sa progression, Édouard Philippe reçoit à Matignon les chefs de parti et les présidents des groupes parlementaires.
Adrien Beck, vous êtes à Matignon. Et alors en fait, il s'agit d'associer toutes les formes politiques à cette crise sans précédent.
Oui, absolument. C'était une demande du premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Il y a une demi-heure, on a donc croisé ici Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, le président du Sénat, Gérard Larcher, mais aussi les représentants de la majorité. Il s'agit bien sûr d'informer, de communiquer auprès de l'ensemble des partis, sujet sanitaire et risque politique aussi. Marine Le Pen a par exemple demandé un renforcement des contrôles aux frontières et l'opposition ne manquerait pas d'attaquer un gouvernement qui n'en ferait pas assez. Alors ce matin, avec cette réunion, Matignon veut montrer que le sujet est trop grave, qu'il dépasse les clivages et que dans ce contexte, le gouvernement prend ses responsabilités.
Adrien, est-ce qu'il y a un risque d'annuler ou de reporter les municipales ?
Eh bien, les municipales, les meetings, les réunions publiques, les files d'attente devant les bureaux de vote, autant de lieux où les Français seront physiquement proches les uns des autres. Mais la question d'un report du scrutin ne se pose pas à ce stade. Voilà ce qu'on nous indique à Matignon. Matignon, où l'on précise que cette hypothèse n'a pas non plus été évoquée lors des différentes réunions sur le coronavirus.
Merci Adrien Beck à Matignon pour Europe 1. Nous vous le disons depuis le début de l'épidémie. Il y a clairement un impact sur l'économie. À la mi-journée, le CAC 40 perd environ 2% dans les entreprises. Emmanuel Dutheil, on s'attend à une crise longue à l'exemple d'Air France.
Oui, hein, chez Air France, comme chez d'autres compagnies aériennes comme Lufthansa, on serre les boulons en ce moment pour faire face aux conséquences de ce coronavirus. On se prépare si la crise devait durer, reconnaît un cadre en interne. La compagnie est bien sûr très touchée. Elle a stoppé tous ses vols vers la Chine. Le pays représente quand même un peu moins de 5% de son chiffre d'affaires. Beaucoup de clients ont des réticences à partir également en Asie du Sud-Est. Il y a bien évidemment maintenant l'Italie qui vient encore compliquer la donne. Rien que pour Air France, 80 allers-retours par jour entre la France et l'Italie. Vous imaginez, Air France a proposé de rembourser ou de reporter les vols prévus d'ici au 2 mars, notamment dans le nord de l'Italie. C'est ça qui est concerné pour le moment. On sent que la clientèle d'affaires voyage moins et que pas mal d'entreprises appellent à limiter les voyages, note-t-on chez Air France. Du coup, la compagnie a demandé à tous ses cadres de limiter toutes les dépenses non urgentes. Les embauches non liées aux opérations sont suspendues. C'est vrai chez Air France et c'est vrai chez KLM.
Merci Emmanuel Dutheil. Et puis le salon horloger de Genève en Suisse a été annulé. C'est une grande annulation pour ce pays. Il y a beaucoup d'impact économique. On verra ça dans le journal de 13h.
Il est midi 14.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant. Un terrible incendie à Strasbourg la nuit dernière. Bilan
5 morts, 7 blessés. A tout de suite sur Europe 1. Il est midi 16, la suite de votre journal avec Pierre Devineau et Raphaël Duchemin. Direction Strasbourg, Pierre, avec cet incendie qui la nuit dernière a coûté la vie à 5 personnes et en a blessé 7 autres.
Jean-Gabriel Bourgeois, vous êtes à Strasbourg pour Europe 1 et le feu s'est déclenché vers 1h du matin.
Oui, et c'est l'odeur de fumée qui a réveillé les habitants de cet immeuble de 7 étages situé à proximité de la gare de Strasbourg. Impossible d'emprunter la cage d'escalier, racontent les rescapés. Des bourrasques de fumée les empêchaient de sortir. Et c'est par la fenêtre du deuxième étage que Marie a pu être secourue par les pompiers.
Plus le temps passait, plus nous on voyait du coup la fumée qui pénétrait chez nous. Et ça devenait un peu irrespirable, donc j'ai eu un peu peur quand même. Je me suis dit, oh, est-ce qu'ils vont venir, est-ce qu'ils vont arriver avec leur échelle? Et on voyait d'abord les gens qui descendaient au fur et à mesure. Et ensuite, finalement, ils se sont occupés de nous.
Marie fait partie des 23 personnes indemnes. 9 habitants ont été conduits dans un gymnase de la ville. Ils sont accompagnés par une cellule d'urgence médico-psychologique et seront relogés dans la journée. Très ému, le maire Roland Ries s'est rendu sur place.
Il faut que toute la lumière soit faite sur l'origine de ce sinistre et que les personnes qui sont victimes mais qui ont survécu puissent être accompagnées au maximum par les pouvoirs publics.
Un choc sans précédent à Strasbourg, on le rappelle, 5 morts et 7 blessés. L'enquête débute, les policiers sont en ce moment à l'intérieur de l'immeuble. La piste accidentelle est actuellement privilégiée. Le feu serait parti d'un tableau électrique dans les parties communes.
Merci Jean-Gabriel Bourgeois en direct de Strasbourg. Strasbourg où côté politique, l'ancienne ministre Catherine Trottmann pourrait jouer un rôle décisif aux prochaines municipales. Elle est troisième derrière la liste LREM UDI Modem. Résultat de notre sondage BVA Orange pour Europe 1.
C'est un scandale jusqu'à présent inexpliqué. Il y a 3 mois, jour pour jour, on découvrait au sein de la très prestigieuse Université de médecine Paris-Descartes des dizaines de corps entassés et laissés à l'abandon.
Et ces dépouilles sont celles de personnes qui avaient souhaité donner leur corps à la science pour faire avancer la recherche, notamment. Ce matin, une 50aine de proches ont manifesté. Ils réclament justice, Marine Proté.
Oui, des enfants, petits-enfants ou amis de personnes qui ont décidé de donner leur corps pour finalement être maltraités une fois morts, des corps démembrés, entassés, des conditions indignes qui ont duré 20 à 30 ans. Depuis que le scandale a éclaté, 24 familles ont porté plainte, des proches encore sous le choc, comme Laurent. Il imagine que sa grand-mère décédée il y a 5 ans a pu être piétinée par des cafards, grignotée par des rats, et c'est insupportable.
Ma grand-mère avait fait ce don pour servir à quelque chose et j'ai l'impression qu'elle a plutôt servi de morceau de viande à des gens peu scrupuleux. J'imagine le corps de ma grand-mère entassé sur d'autres corps, sans drap intermédiaire, sans protection. On parle de corps démembrés. Je me dis, mais alors peut-être qu'elle a été incinérée sans un de ses bras, sans une de ses jambes. On a des images absolument terribles en tête dont on ne parvient pas à se débarrasser.
Laurent veut que justice soit faite, que les responsables soient identifiés et surtout punis, notamment ceux qui ont contribué à créer un réel trafic macabre. L'enquête de l'Express avait révélé que l'Université Paris-Descartes vendait à des entreprises certaines parties des corps pour servir par exemple de crash test pour des habitacles de voitures. Des actes impardonnables pour les familles venues manifester ce matin. Dégoûtées par ces pratiques, une partie d'entre eux a décidé que jamais ils ne donneront leur corps à la science.
Merci Marine Proté. Les familles seront reçues aujourd'hui par la directrice de l'Université Paris-Descartes. SNCF Tout déraille, voilà le titre sans appel du magazine 60 millions de consommateurs qui sort ce matin. Guichet fermé, desserte supprimée, surtout le flou total sur la politique tarifaire en fonction du jour où vous achetez votre billet. Constat effectué après une analyse sur près de 3000 trajets. Aurélien Fleurot.
Ce qui frappe, c'est les tarifs qui font le yo-yo sur un même trajet. On peut avoir des tarifs qui varient de 1 à 11.
Un trajet en TGV entre Aix-en-Provence et Paris peut vous coûter le week-end entre 25 et 116 euros pour une place en seconde classe sans carte de réduction. Évidemment, plus vous réservez tôt, moins cher vous paierez. L'économie moyenne en achetant son billet 2 mois à l'avance est de 20% par rapport à un achat 15 jours avant le départ. Mais cela ne marche pas à tous les coups, a constaté Benjamin Dourier de 60 millions de consommateurs.
Sur les grands départs, effectivement, des bons plans, il n'y en a pas. On l'a vérifié, nous, en relevant les prix pour un départ le week-end de l'Ascension. On a relevé les prix dans les 24 heures qui suivaient l'ouverture des réservations. Sur les Paris-Bordeaux, tous les trains étaient au tarif maximum autorisé à la SNCF.
Et la ligne où la SNCF rentabilise le plus, c'est le Paris-Lyon. Beaucoup de demandes, peu de petits prix, sauf si vous voyagez avec Ouigo. Et puis, autre source de flou relevée par 60 millions de consommateurs, les cartes de réduction. qui ne sont pas utiles pour tous les types de trains. Sur des trajets en TER comme sur le Paris-Caen-Cherbourg ou Paris-Orléans, la carte de la région est souvent plus avantageuse que la carte SNCF.
Aurélien Fleurot.
Il est midi 21. Europe 1. Restez avec nous dans un instant. Finalement, Roman Polanski ne vient pas au César demain soir. Et puis, les rois du stade, ce sont les Lyonnais 1-0 face à la Juve. A tout de suite. Il est midi 23 à la suite de votre journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
La 45e cérémonie des Césars se tient demain soir et finalement ce sera sans Roman Polanski. Mathieu Charrier.
Oui, le réalisateur qui vient il y a quelques minutes d'envoyer un texte à l'AFP. Alors je le cite, hein, depuis plusieurs jours on me pose cette question, viendrai-je ou ne viendrai-je pas? Vous savez que c'est vrai que ça tourne dans les rédactions. Il y a quelques jours, LCI a affirmé qu'il viendrait. Dans la foulée, la communicante de Roman Polanski, Anomel, avait dit qu'il n'avait toujours pas pris sa décision. Moi, ce matin encore, effectivement, on me disait que sa décision n'était pas prise dans son entourage. Et bien, visiblement, si. Alors, il explique, hein, des activistes me menacent déjà d'un lynchage public. Certains annoncent des démonstrations devant la salle Pleyel. Je dois protéger ma famille, ma femme, mes enfants. Polanski qui affirme que c'est donc avec regret qu'il prend cette décision, celle, je le cite, écoutez, les mots sont forts, de ne pas affronter un tribunal d'opinion autoproclamé, prêt à fouler aux pieds les principes de l'état de droit pour que l'irrationnel triomphe à nouveau sans partage. Alors ce que je peux vous dire aussi, ce qu'on m'a raconté ce matin, c'est que Florence Foresti, vous savez qu'elle est maîtresse de cérémonie de ces Césars, eh bien, elle avait fait savoir que si Roman Polanski était vendredi soir, demain soir dans la salle, elle pouvait renoncer à présenter la cérémonie. Évidemment, vous imaginez tout le pataquès.
Un coup d'éclat au dernier moment.
Donc voilà, ça fait des jours que tout le monde allait plutôt dans le sens de dire il ne faut pas que Roman Polanski vienne. Lundi, c'était Adèle Haenel qui en mettait une couche dans une interview au New York Times en disant que récompenser Polanski, c'était cracher au visage de toutes les victimes. Il faut savoir qu'Adèle Haenel, elle sera là, elle, demain soir dans la salle et probablement sur scène si elle reçoit le César de la meilleure actrice. Donc voilà, ça annonçait une cérémonie qui allait partir dans tous les sens. Ça fait plusieurs jours que tout le monde essaye d'apaiser les choses. Que le conseil d'administration a démissionné, qu'Alain Terzian, le président depuis 2003, est parti. Maintenant, Polanski dit « je ne serai pas là ». L'idée, c'est d'éviter que tout le monde du cinéma, là, que toute cette famille, lave son linge sale en famille. On va voir si ça va fonctionner, mais en tout cas, aujourd'hui, tout semble aller dans ce sens-là.
Et on notera que l'apaisement vient de Roman Polanski.
Roman Polanski lui-même a pris cette décision sous la pression, c'est certain.
Merci Mathieu Charrier. C'est l'une des grandes expos de la saison. Cézanne au musée Marmottan, mais pas comme les autres puisque c'est Cézanne avec son rapport à l'Italie. Ça ouvre aujourd'hui. Il y a aussi des toiles de Poussin, de Tintoret, du Greco et des modernes Italiens. Diane Chenouda.
Cézanne, qui n'a jamais mis les pieds en Italie, s'est nourri toute sa vie d'Italie. Comme on le voit avec son paysage fétiche de la montagne Sainte-Victoire. Marianne Mathieu est la directrice du musée Marmottan.
Cézanne, lorsqu'il se lève le matin, il ouvre sa fenêtre et il a une vision intemporelle, magistrale, et c'est ce qu'il peint. C'est pour ça que Cézanne est un peintre italien.
Intemporel, comme les paysages de Poussin, qui lui a passé plus de 40 ans à Rome. Ces paysages que l'on admire aussi, à côté de la Provence et des baigneuses modernes de Cézanne. Cézanne, que les Italiens considèrent même d'origine italienne.
Ils l'ont adopté, parce qu'en fait, pourquoi il est d'origine italienne? C'est parce qu'il est aixois. Et quand on est en Provence, eh bien, on est à quelques kilomètres à peine. On a bien évidemment le même passé, la même culture, la même antiquité, le même rapport au paysage, le même rapport au temps. Alors, on est forcément un peintre italien.
Et on découvre justement aussi comment Cézanne a marqué ensuite les peintres modernes italiens.
Diane Chenouda.
Il est midi 26, c'est la suite de votre journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Et on parle foot. L'exploit hier soir de l'OL face aux Turinois de la Juve en Ligue des Champions. Ils les ont battus, Pierre, 1-0.
Et oui, Cyril Delamore et Henry, contrairement à ce que disaient les mauvaises langues, ce sont les Lyonnais qui ont donc eu le dernier mot.
Oui, ambiance fabuleuse hier soir, loin des tensions vécues en début de saison entre les fans lyonnais et leur équipe. Écharpe brandie, les supporters ont célébré leurs joueurs. Jamais le club lyonnais n'avait battu le grand rival italien.
Quelle victoire! Super match. Plus beau match de la saison, ça c'est sûr.
Franchement, première période, ils ont été bons. Deuxième, un peu moins.
Et on va voir ce qu'elle est fait au match retour. Et nous, on peut marquer les buts à l'extérieur. Hein. On a toutes nos chances. Hein.
Voilà, Cristiano Ronaldo muselé, Adrien Rabiot dépassé, à l'inverse un milieu lyonnais omniprésent, Lucas Touzard buteur, Aouar passeur, la nouvelle recrue Guimaraes rapide et technique. L'OL réussit un coup de maître sans flamme ce matin, le progrès, mais il faut rester prudent, tempère l'entraîneur Rudy Garcia.
On peut encore se qualifier pour les quarts de finale de la Champions League, même si je le répète, il faut être humble et c'est loin d'être fait. La Juventus reste encore le favori de cette double confrontation évidemment.
Et rendez-vous dans 3 semaines pour la 2e manche à Turin. En attendant, Lyon va préparer son derby contre Saint-Etienne, prévu dimanche.
Dites-moi, y a-t-il une gêne ou des craintes avec la présence des supporters italiens et le coronavirus ?
Alors, écoutez, il y a eu des panneaux à l'entrée rappelant les précautions d'usage, du gel hydroalcoolique à disposition sur le buffet. J'ai même vu quelques supporters, en effet, avec des masques. Tout ça, c'est du jamais vu. Mais à vrai dire, on a été totalement absorbés par le match, transportés dès que la fameuse musique de la Ligue des Champions a retenti.
Ça fait
et
du
oui.
bien.
Et on commence sans match. On a commenté sans masque. C'est plus pratique. Hein.
C'est plus
parce que même les interviews, je peux vous dire, de supporters avec masque, on ne comprend pas grand-chose.
On commence à être habitué, Cyril. Hein.
Deux. Ah bah oui, oui, oui. Dès qu'il y a le coronavirus, on m'envoie.
Eh oui, eh oui.
Donc peut-être que je vais aller en Italie. Ou
il fait sa victime, Cyril.
À mon avis, vous allez y aller en Italie, oui. Merci, Cyril. Merci, de la Morinerie. Merci, Pierre. On se retrouve à 13h pour un nouveau journal. C'est l'heure de la météo. Céline Dacosta,
oui.
Du vent, des averses, de la neige.
Mais
voilà
oui.
le programme.
C'est vrai, on a eu quelques centimètres en pleine. Hein, sur les 10 départements, encore en vigilance orange entre les Hauts-de-France et le Grand Est. Une vigilance qui devrait évoluer vers 13h. On fera le point tout à l'heure. Alors attention, au risque d'avalanche également qui est élevé, 4 sur 5 sur les Alpes du Nord. Pour les autres, ciel très agité, vous l'avez constaté ce matin sur la moitié ouest. Eh bien, cette perturbation s'est décalée vers l'est. Là, les pluies sont encore soutenues. Des giboulées possibles et du vent, 80 à 100 km à l'heure dans les terres tout de même, 110 sur les côtes du Roussillon, 120 même sur les cimes alpines. Pour le nord-ouest, c'est un petit peu plus calme. Le vent est là aussi bien présent, mais chasse un peu les nuages. Du coup, on aura quelques éclaircies. Et côté température, elles sont semblables à celles d'hier.
Merci, Céline Dacosta. Europe 1.